Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now?
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de la présentation de la saison NFL 2023 en audio avec TD Actu. Bonjour à Grégory Richard.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Et bonjour à Jean-Michel Boujard.
Et bonjour tout le monde, ça va ?
Ça va très bien Jean-Michel, on continue de remonter le classement et on file du côté de Cleveland aujourd'hui avec la deuxième saison du projet de Sean Watson. L'an dernier, 7 victoires, 10 défaites. Une année débutée par Jacoby Brissett, terminée par Deshaun Watson. Le bilan, parce qu'il y a le bilan de 7-10 officiel, mais il y a le bilan Watson qui était de 3 victoires, 3 défaites, qui est presque tout aussi important. Du côté des transactions, on a fait venir Elijah Moore, Marquise Goodwin, Jordan Akins, pardon, je vais y arriver, Colby Gossett, Wes Martin. En défense, on a fait venir Ogbonia, Okoronkwo, Dalvin Thompson, Maurice Hurst, Tristan Hill, Mike Ford, Juan Thornhill et Ronnie McLeod. On a drafté un receveur avec Cedric Tillman notamment. On a perdu Jacoby Brissett, on en parlait, Kareem Hunt, D'Ernest Johnson, Jadeveon Clowney, Chase Winovich, Taven Bryan, Dion Jones et John Johnson. Est-ce que sur le papier, messieurs, dans cette deuxième année du projet de Sean Watson, qui va maintenant donc tout débuter, il n'y a plus de suspension ou quoi que ce soit pour lui, est-ce qu'on est sur potentiellement une équipe surprise de la saison ? Jean-Michel.
Ah oui, c'est fort possible. Et comme tu le dis, Deshaun Watson, il va débuter. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà qu'il a eu toute l'intersaison pour le playbook, pour les automatismes avec ses coéquipiers, etc. Ce qu'il n'avait pas eu l'année dernière. Donc du coup, on l'a quand même vu, Deshaun Watson. Alors ok, on connaît le hors-terrain, mais sur le terrain, on l'a vu avec Houston, c'est quand même un sacré quarterback. Donc là, toute une intersaison à prendre le playbook, à faire les jeux, à avoir des automatismes, etc. Ça va te changer une saison, hein.
On remet en contexte d'ailleurs, Watson il a 27 ans, hein, parce qu'on s'est un peu perdu dans toutes ces histoires et le temps d'arrêt, etc. Et alors il a joué l'an dernier, mais sinon il n'avait pas joué depuis 2020, donc c'est la première fois qu'il va débuter une saison depuis 2020. Greg, est-ce qu'il en fait potentiellement une équipe, on va dire, qui peut taquiner les playoffs quoi, en AFC ?
Oui, clairement, ça fait partie de ces équipes qui se sont à mon sens savamment armées dans l'optique de repartir du bon pied pour répondre à ta question et pour en effet être assez compétitif. Dans la division Nord en particulier et dans la conférence AFC en général.
Quel est le plus gros point fort de cette équipe ? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Moi, j'ai une bonne liste. C'est quoi le plus gros pour toi, Jean-Michel ?
Ah, pour moi, bah, comme tu dis, il y en a plusieurs, mais pour moi, le plus gros, c'est quand même la ligne défensive où tu as Myles Garrett. Voilà, Myles Garrett, c'est un phénomène, c'est quelqu'un qui te change les matchs. Il a fait 16 sacks en 2021, 16 sacks en 2022. Je veux dire, c'est un monstre. Et en plus, à cette intersaison, il est entouré de Dalvin Tomlinson, qui est plutôt un bon défensif tackle, et de Za'Darius Smith, qui est lui aussi un très bon pass rusher. Donc, cette ligne défensive menée par Myles Garrett, rien que ça, déjà, ça va t'assurer, alors j'ai des victoires, peut-être que je prends un raccourci un peu rapide, mais ça t'assure de la qualité.
Za'Darius Smith, une dizaine de sacs l'an dernier aussi, mais j'ai vu Greg un peu dodeliner de la tête parce que je crois qu'il s'attendait à une autre ligne, non ?
Pour rejoindre ce que disait Jean-Mi, je restais sur ce qu'on avait vu parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, ça fait partie de ces secteurs qui ont été améliorés du côté de Cleveland. Pour l'instant, on n'a pas vu ce que ça va donner, mais en effet, sur le papier, c'est assez aguichant. Alors ça l'était aussi avec Clowney à l'époque, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on voit que ça a été extrêmement bien considéré et je partage l'enthousiasme de Jean-Mi sur les arrivées de Za'Darius Smith et Dalvin Tomlinson. Il y a un joueur dont on parle pas beaucoup également, mais qui a été signé il y a peu de temps, c'est Shelby Harris, qui est un joueur très polyvalent et qui est capable également de générer un petit peu de pass rush sur l'intérieur de la ligne, vu qu'on a vu que Jordan Elliott et Tevin Bryan n'étaient clairement pas les solutions en titulaire la saison dernière sur l'intérieur. Donc la ligne défensive, oui, peut avoir de la gueule. Après, la ligne offensive, ou en tout cas tout simplement le jeu au sol offensif du côté de Cleveland, on voit que c'est vraiment la façon de faire de Kevin Stefanski depuis qu'il est arrivé du côté de l'Ohio. La ligne offensive n'est pas toujours parfaite dans tous les secteurs, mais en tout cas sur le jeu au sol, c'est extrêmement rodé. Il y a quasiment tout le monde qui revient, sauf erreur de ma part. Il y a un Nick Chubb qui reste sur 4 saisons à plus de 1000 yards, et on lui souhaite de continuer de rester en forme pour pouvoir le faire, même si on sait que la longévité sur le poste de running back, c'est toujours quelque chose d'assez préoccupant. Mais oui, pour moi, si on reste sur l'attaque, même si on attend beaucoup de ce que peut donner un Deshaun Watson, je pense que très clairement, le jeu au sol restera l'arme principale de cette équipe des Browns en 2023.
Comme quoi, c'est varié, parce que moi, c'était vraiment la ligne offensive. Je trouve qu'ils ont une des meilleures lignes offensives de la ligue. Jedrick Wills, Joel Bitonio, Ethan Pochick, Wyatt Teller, Jack Conklin. C'est quand même du très, très, très costaud. C'est toujours dur de classer. On sait qu'il peut y avoir des surprises, mais... Et derrière, tu le disais, tu mets un Nick Chubb qui a plus de 1500 yards l'an dernier.
C'est plus sur le pass pro que la ligne offensive, moi, me paraît un petit peu inconstante ces dernières années. Mais après, voilà, ça peut continuer de se développer également en ce sens.
Donc une équipe bien bâtie sur les lignes, on l'a compris. Je mets le bémol, mais même si vous l'avez bien dit, Tomlinson et Harris, ça comble bien ce besoin-là. Faudra voir dans l'application, parce qu'ils avaient quand même pris cher de temps en temps au sol l'an dernier. Mais ça va être intéressant. Et il y a un changement de coordinateur aussi avec Jim Schwartz. Après, Schwartz, il sait bosser avec des linemen talentueux. Donc ça n'a pas toujours été un grand head coach, mais en termes de coordinateur, c'est plutôt
solide.
Oui, puis
ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est plus... Alors, il a des défenses agressives, mais généralement, le run-stop, c'est quelque chose qui lui tient quand même assez à cœur. Donc ça peut se développer.
Donc très costaud dans les tranchées, on l'a dit, et même... tout le front 7, enfin pas le front 7, mais l'alliance ligne plus course en attaque. Dans les points plus compliqués, qu'est-ce que vous mettriez du coup sur les points faibles de cette équipe, Grégory?
Alors, c'est un peu paradoxal, mais le groupe de linebackers, par rapport à ce que je disais, je pense que ça va être une des principales missions de Jim Schwartz, c'est vraiment réussir à développer ce groupe-là. On aimait beaucoup, enfin je pense que c'était le cas aussi de Jeremiah Owusu-Koramoah. Pour l'instant, voilà, on a du mal à avoir vraiment un linebacker totalement d'impact. Anthony Walker, sauf erreur de ma part, a été blessé l'année dernière. Après, on est plus sur des joueurs de complément. Donc, c'est vrai que voilà, même si on a enfin développé, enfin apporté en tout cas un peu plus de talent brut sur l'intérieur de la ligne défensive, va quand même falloir faire attention sur ce poste de linebacker, ou que ce soit sur le run stop ou même peut-être d'un point de vue couverture. Il va falloir quand même être un petit peu vigilant dans la division qui est la leur, où on va quand même avoir tendance peut-être à loucher un peu vers les tight ends et les running backs. Donc c'est plus dans ce secteur-là que mes principales zones d'inquiétude. Tu parlais du pass pro aussi tout à l'heure sur la O-line, mais c'est peut-être plus dans ce secteur-là que mes inquiétudes se centralisent.
Jean-Michel, ça fait penser un petit peu aux Jets, ce côté très bonne ligne, très bonne couverture aérienne, et peut-être les linebackers un petit peu au milieu un peu moins forts.
Oui, c'est ça exactement. Mais après, je trouve qu'une bonne défense, ça se construit avec la ligne et la couverture. Et ils ont les deux. Alors, la couverture, il y a encore peut-être des petites incertitudes avec des joueurs très jeunes comme Emerson, qui a fait une très bonne saison rookie, s'il confirme très bien. Mais ils ont une telle ligne défensive que moi, j'ai assez peu de craintes. Moi, à la limite, c'est plus en attaque que j'ai un petit peu des doutes, parce que, oui, ils courent beaucoup, mais il va falloir lancer le ballon aussi. Alors, Amari Cooper, bien sûr, il a fait plus de 1000 yards et 9 touchdowns, il est très bien, etc. Mais Titan, David Njoku, ben, il est plutôt pas mal, d'accord, allez si tu veux ça en fait deux, mais c'est qui le troisième? Parce que Donovan Peoples-Jones, ben, il doit éclater un petit peu, parce que pour l'instant c'est un joueur correct, pas plus. Après t'as qui? T'as Elijah Moore, t'as le sprinter Marquise Godwin, t'as un rookie Cedric Tillman, mais ça manque un petit peu de cible. Il faut absolument qu'il y ait au moins un troisième qui se révèle et qui joue à bon niveau, et c'est là ça manque un tout petit peu, je trouve.
Je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'avais aussi dans les raisons pour lesquelles il pourrait perdre. Je trouve ça un peu léger. Cooper, il a jamais dépassé les 1200 yards, ce qui est déjà bien, mais il a tendance à disparaître un peu dans les grosses échéances et au fil des saisons, donc je suis pas hyper convaincu par le profil en général. Peoples Jones, il progresse. Donc on peut espérer, comme tu disais, qu'il explose, mais je suis vraiment totalement d'accord avec toi sur le fait que il faut qu'il y en ait un qui explose, surtout si on rapporte au contexte, c'est-à-dire t'es dans la conférence AFC et t'as des espoirs. Quand tu vois les armadas, Bills, Dolphins, Chiefs, Bengals, etc. Enfin, tu vois, Bengals, tu prends, comment dire... Oh, j'ai un trou sur le nom du receveur numéro 1, je sais pas pourquoi.
Jamar Chase.
Jamar Chase, merci beaucoup. Tu prends Chase ou Higgins, c'est déjà deux joueurs que je prends au-dessus de n'importe quel joueur des Browns. C'est-à-dire que Higgins, qui est numéro 2 à Cincinnati, je le prends au-dessus de même d'Amari Cooper, tu vois, si, dans ces cas-là. Donc, je suis un peu plus réservé, en effet, sur ces receveurs, d'autant plus que tu mises sur la progression de Watson. Donc, mais après, voilà, t'as lâché des choix de draft, t'as lâché des trucs pour avoir Watson, donc on peut pas tout avoir. Hein. C'est la beauté d'avoir un salary cap et des équipes qui doivent s'équilibrer. Greg, je sais qu'on aime bien se friter tous les ans sur un groupe de receveurs. Oui, est-ce que ce sera celui-là, lui-là ?
Ouais. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Déjà, le postulat de c'est le groupe de receveurs qui doit aider Deshaun Watson, je suis pas forcément parti là-dessus. Quand on voit le contrat de Watson, a priori, c'est quand même lui qui est censé tirer le meilleur d'un groupe qui est relativement jeune sur le papier. Bah, et assez séduisant.
Son contrat, c'est lui qui doit céder lui-même.
Oui, certes.
Et il doit aider toute l'équipe.
Oui, mais voilà. Après, encore une fois, voilà. Pour lui, les responsabilités, pour moi, sont plus grandes du côté d'Ishan Watson que côté receveur. Après, je suis d'accord avec vous que forcément, il arrivera mieux à retrouver le niveau qu'on a pu connaître de lui quand il était à Houston, avec un corps de receveur assez intéressant. Après, voilà, moi, je veux bien qu'on soit un petit peu sceptique, mais bon, Cooper, People Jones, c'est quasiment 2 milliards de la saison dernière. Après, il y a quelques zones d'ombre, mais Elijah Moore, on sait que c'est plus des problèmes en interne qui ont un peu plombé ces deux premières années chez les Jets, mais ça peut être un excellent receveur dans le slot. David Bell, c'est uniquement sa deuxième année, on n'a pas vu énormément de choses la saison dernière, et peut-être que c'est un joueur qui va se développer vu qu'elle a été draftée assez haut du côté de Cleveland. Moi, en soi, le corps de receveur me paraît pas infamant, surtout que David Njoku, sur le poste de tight end, va éventuellement réquisitionner pas mal de ballons. Donc, c'est pas là-dessus. Au mieux, j'en ferai un facteur X, par rapport surtout à Deshaun Watson et le fait que forcément, bah, il a eu ce temps d'adaptation l'année dernière par rapport au temps où il n'a pas joué. Mais là, comme Jean-Mi l'a dit tout à l'heure, ce sera plus forcément d'actualité en démarrant la saison.
Jean-Michel.
Mais on ne dit pas que c'est infamant. Évidemment, ce sont des bons joueurs, mais on est quand même dans la AFC Nord où tu as les Bengals, où tu as les Ravens et même
pour
les
moi,
Steelers
les Browns ont un meilleur corps que les Ravens, par exemple, si on va par là.
Oui, mais c'est
oui,
des grosses.
Les Ravens, oui.
Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je trouve que ça manque vraiment d'une qualité où tu te dis waouh, ok, c'est bon. Là, ils ont vraiment au moins 2-3 receveurs super forts. Mmh. Et voilà, c'est en ça que ça manque.
Oui, mais si tu veux, voilà. Alain prenait l'exemple des Bengals. Il y a des politiques différentes sur les corps de receveurs. Il y a des équipes qui vont avoir deux top stars en receveur et puis des équipes où ça va être un peu plus dilué. Ou voilà, je veux dire, est-ce que les Chiefs avec Mahomes, alors après c'est les Chiefs avec Mahomes, mais est-ce que les Chiefs avec Mahomes sur les receveurs extérieurs avaient des énormes stars l'année dernière quand ils ont gagné le Super Bowl? Non, ils avaient un tight end très établi et des receveurs qui savaient aller chercher le nombre de yards qu'il fallait sur l'ensemble d'une saison.
Après, Greg, je pense que là aussi où on diffère, et c'est pour ça aussi qu'on juge aussi par rapport au contexte, c'est-à-dire qu'on donne ça comme un point faible pour une équipe qui a des très gros points forts.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'au mieux, pour moi, c'est un facteur X, mais voilà, je reconceptualisais juste le propos.
Mais clairement, comme Jean-Michel, je trouve pas non plus que ce soit c'est pas du tout un des pires groupes de receveurs de la ligue. Hein, attention, mais c'est un point faible relatif par rapport à leurs autres qualités aussi et à la conférence. Là, on commence à juger sur des équipes qui ont des prétentions et là-dessus, en se basant là-dessus, voilà, t'es un petit peu limité. Mais après, c'est ce qu'on disait aussi et je pense que Jean-Mi, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est ce qu'on disait tous les deux, c'est que si Peoples Jones ou Moore fait une bonne saison. Il n'y a pas de souci, hein, il y a un ensemble qui est très cohérent avec le jeu au sol, avec voilà. Mais voilà, comparé aux autres qualités de l'équipe, clairement c'est le petit point faible, mais ça reste. Tu vois, c'est pas les receveurs des Colts l'an dernier, par exemple.
Oui, voilà. Ouais. Mais tu vois, quand tu parles de People Jones et de
Moore, souvenir que c'est sur ceux-là qu'on s'est frité avec Greg. Oui, excuse-moi, Jean-Michel.
Ouais, quand tu parles de People Jones et de Moore, tu rajoutes un si dans ta phrase. C'est ça le problème que j'ai avec. Alors que, quand tu parles des Bengals, et même si tu dépasses Chase et Higgins qui sont fabuleux, même tu prends un Tyler Boyd, il aurait tout à fait sa place à Cleveland, et tu peux être sûr qu'un gars comme ça, il va te faire 700-800 yards, il va te marquer 6 touchdowns, et ça, déjà, c'est bien. Et ça, à mon avis, c'est pas ce que va faire Njoku, et les deux autres, c'est du si. Peut-être.
Les deux autres ont fait plus de 800 yards l'année dernière. Bon, après, voilà, encore une fois, je ne vais pas polémiquer
je reprends ton exemple pour le contexte. Tu disais, Mahomes, il a gagné sans grand receveur, mais je pense que si on regarde la prévue de l'an dernier des Chiefs, on avait dû dire que le groupe de receveurs était probablement un des bémols de l'équipe
j'étais d'accord avec toi là-dessus.
Factor X, est-ce qu'on revient tous sur Deshaun Watson à ce moment-là?
Oui, bien sûr.
Vas-y. Alain a lancé sur Watson, vas-y.
Oui, Watson, bien sûr. Mais après, moi, j'en voyais un autre aussi. Mais oui, forcément, Deshaun Watson, on va voir une intersaison complète. Et puis, c'est un bon quarterback, a priori, derrière une bonne ligne avec un gros jeu de course. Donc oui, a priori, c'est à lui de réussir. Et donc, on va voir s'il va être incapable.
7 touchdowns, 5 interceptions l'an dernier en 6 matchs, donc clairement c'était du rodage. C'est pour ça que je le mets en facteur X, c'est que c'est le moment où on va devoir voir s'il vaut l'énorme contrat à 230 millions qu'il a eu, s'il vaut tous les choix de draft qu'ils ont donné, s'il vaut toute l'équipe qui est construite autour de lui, parce qu'on en revient à ça quand même. Il y a une très belle équipe construite autour de lui, donc pour moi c'est forcément le facteur X. Ça me semblait évident, mais ça n'a pas l'air de l'être pour Greg Taki du coup.
Du coup c'est pareil, à chaque fois je m'embrouille peut-être entre les facteurs X et les points faibles, parce que du coup je m'interrogeais plus sur la profondeur, parce qu'on sait que les blessures ça arrive toujours, il y a quand même quelques postes qui moi m'interrogent. On parlait avec Nick Chubb tout à l'heure, le pass rush etc. Il faudrait pas qu'il y ait trop de blessés non plus, parce que ça peut être rédhibitoire sur des secteurs qui peuvent être cruciaux pour Cleveland. Mais oui, je vous rejoins, c'est sûr que l'investissement a été tel pour Deshaun Watson que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, sa responsabilité sera directement engagé. L'année dernière, on voulait bien se dire qu'il y avait peut-être une petite latence pour se mettre en marche, etc., etc. Mais là, très clairement, oui, avec le groupe qui est le sien, et je persiste avec des receveurs convenables, il doit clairement faire beaucoup mieux que ce qu'ont fait les Browns la saison dernière. Ouais.
Jean-Michel.
Après, il y a un secteur dont on parle peu, mais finalement, on le voit très bien dans les matchs et ça impacte les matchs. C'est que il va falloir qu'ils réduisent leurs pénalités aussi. Parce que voilà, quand tu fais une bonne action et que t'as les arbitres qui te jettent le flag et ça annule ton action, l'année dernière, ils ont concédé 102 pénalités. 102. Il faut absolument qu'ils réduisent ça pour vraiment pouvoir avancer. Donc voilà, un peu plus de discipline en 2023, c'est un des facteurs X, je pense.
Le calendrier, on a beaucoup parlé d'eux, c'est un hasard, j'avais pas fait exprès, mais ils commencent contre les Bengals, justement. Ensuite, ils joueront les Steelers, les Titans, les Ravens. Ils se reposeront dès la semaine 5. Direction ensuite un match contre San Francisco à Cleveland. Ensuite, ils joueront les Colts, les Seahawks, les Cardinals, les Ravens, les Steelers, les Broncos, les Rams, les Jaguars, les Bears, les Texans, les Jets et les Bengals. Ils terminent comme ils ont commencé avec Cincinnati. Ça va être des belles affiches, hein, ça, pour le coup. Pas facile parce qu'il y a Cincinnati quand même qui est le favori de cette division. Maintenant, les Bengals se sont établis depuis 2 ans avec Joe Burrow. Pour le reste du calendrier, il y a quand même pas mal de choses qui sont prenables. Quel va être l'objectif de Cleveland et surtout quel va être le pronostic? Qui de vous deux est inspiré le premier par ce prono?
Moi, ça va être la même problématique que pour les Jets, c'est-à-dire qu'il y a un calendrier en effet intéressant, mais il y a une division qui est tellement relevée que j'ai du mal à aller au-dessus de 10.
Donc, moi j'ai 8 ou 9 aussi. Ouais.
Grand maximum 17, parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de postes qui ont été bien considérés. Mais ouais, ça risque de coincer un peu. Et tu le disais, cette bye week en 5e semaine, c'est un peu ma lubie manifestement. Mais voilà, je me dis qu'après en saison régulière, ça risque de se payer un petit peu sur des matchs couperés fin décembre. Et ouais, ça peut laisser quelques plumes. Donc aller au-dessus de 10 victoires, je suis pas persuadé.
C'est vrai que tu termines par Jets Bengals en fin de saison, ça pique. Jean-Michel,
ouais,
combien de victoires?
Ouais, je vous rejoins. Moi, j'étais entre 9-8 et 17, donc 9 ou 10 victoires. Parce que il y a autre chose aussi, tu vois, en 2022, je regardais un petit peu tous leurs matchs et en fait, ils ont 4 défaites de 3 points ou moins. Et t'imagines, 4 défaites ou 4 victoires, ça te change complètement un bilan. Des matchs aussi serrés à moins de 3 points. Mais bon, ouais, dans cette division, moi, je les vois à 9 ou 10 victoires. Pas plus.
Bon, bah on tourne à peu près tous autour de 9, si je comprends bien.
Ouais.
On va se donner ce chiffre-là. Et bien, c'est comme ça qu'on termine la preview des Cincinnati Bengals. On a tellement parlé d'eux que je m'embrouille. Des Cleveland Browns. Ça commence par un C et c'est dans la même division. Les Browns, donc c'est fait. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous remercie de nous aider sur Tipeee si vous le souhaitez et de nous aider sur les stores en mettant des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast. Vous retrouvez toute la version écrite de cette preview par un autre rédacteur. Donc, autre point de vue, autre pronostic sur le site tdactu.com. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et nous, on se retrouve demain, toujours avec Jean-Michel et Grégory. Merci, messieurs. Et demain, on parlera des Carolina Panthers. Ciao, ciao.
Allez, bye.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction.
Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloane.